Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, le prix de l'électricité qui augmente de 15% chez EDF. C'est énorme, mais ça aurait dû être beaucoup plus sans l'aide de l'État. Le détail dès le début d'Europe Midi. Le gros succès du livret A, le taux passe aujourd'hui à 3%. On va en parler dans un instant. La réforme des retraites et les manifestations d'hier, il y avait du monde dans la rue. Et après, les informations de Jacques Serret depuis l'Élysée, où s'est tenu le Conseil des ministres ce matin. Et puis on sera avec Céline Verzelletti, elle est secrétaire confédérale de la CGT. On sera avec elle à midi et demi et avec vous bien sûr au 39-21, vous appelez, vous donnez votre avis. Le projet de loi immigration présenté ce matin lors de ce Conseil des ministres, faut-il plus ou moins d'immigration en France? Vous appelez le 39-21. Des fonctionnaires en Picardie travaillent 36 heures par semaine au lieu de 35, mais sur 4 jours au lieu de 5, ça vous tenterait? Margot Faudéré va tout nous expliquer. La sortie événement d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu. On était à la sortie de la première diffusion ce matin, projection du film dans une salle parisienne. Et puis Guillaume Canet dans Europe Midi à 12h50. À midi 20, on réécoutera un moment de radio, Gaspard Proust et Sandrine Rousseau. C'était ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Vous allez voir, c'est savoureux. La tendance météo, Anissa Haddadi, ça s'améliore dans le ciel.
Oui, pour ce premier jour du mois de février, c'est vrai qu'on va vers le mieux hein, cet après-midi. Ce matin, c'était très nuageux. Mais on va retrouver de belles éclaircies sur une grande majorité des régions. Toujours du grand et beau soleil dans les Alpes et au bord de la Méditerranée. Il reste une zone très nuageuse cet après-midi, c'est le quart nord-est. Les températures aussi connaissent un petit redoux cet après-midi.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
À chaque premier du mois, son lot de changements. Et en ce mois de février, vous allez l'entendre, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Les prix des péages sur les autoroutes augmentent en moyenne de 4,75%. Les courses en taxi coûtent 4% de plus. Et le prix minimum d'une course en VTC passe de 8 euros à 10,20 euros. À la SNCF, les conditions d'échange de billets sont durcies. Mais l'augmentation qui va toucher le plus de foyers en France, c'est celle de l'électricité. Le bouclier tarifaire prévu par le gouvernement devient moins généreux. La hausse des factures est désormais plafonnée à 15% contre 4% jusqu'ici. Perspective peu réjouissante pour nombre d'entre nous, déjà touchés de plein fouet par l'inflation. Écoutez les réactions de ces habitants de Strasbourg rencontrés par Tatiana Gesellmann.
Ça a forcément un impact parce que je vis seul, j'ai un chauffage électrique, ça va faire à peu près 10 euros, une dizaine d'euros, enfin je sais pas exactement.
Ça va faire une vingtaine d'euros supplémentaires.
Une vingtaine carrément. Moi j'achèterais moins pour moi.
Aujourd'hui tout augmente, l'eau chaude, le chauffage, etc. Bon, on a une augmentation de consommation, mais en retour on voit que les salaires en général n'augmentent pas. Les gens s'appauvrissent, ben on est dans la merde.
Ça va avoir un impact, étant donné que je suis étudiante. En moyenne, je crois que je paye à peu près 38 euros par mois d'électricité. Et je sais pas trop comment je vais faire. Après, je sais qu'il y a un chèque énergie normalement aussi qui va être mis en place. Du coup, peut-être que ça régulera ces 100 euros en plus.
Voilà des propos recueillis par la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Tatiana Gesellmann. Aurélien Fleurot avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Cette hausse de 15% des factures d'électricité, elle va concerner qui précisément?
Alors donc, cette hausse du tarif réglementé de l'électricité concerne plus de 20 millions de foyers et également près d'1 500 000 petits professionnels de l'Hexagone, de la Corse et de l'Outre-mer. Ces nouveaux prix seront répercutés sur la facture EDF chaque mois. Cela va représenter une vingtaine d'euros en moyenne, même si tout dépendra évidemment de l'option choisi dans votre contrat. Et puis, bien sûr, si vous ne voulez pas modifier vos mensualités, il y aura une régularisation en fin d'année. Cette hausse devrait être la seule de l'année, donc plus 15% pour ce bouclier tarifaire version 2023. C'était, vous l'avez dit Romain, plus 4% l'an dernier, mais sans intervention de l'État, cela aurait été plus 100% selon les données de la Commission de régulation de l'énergie qui explique ces fortes augmentations. D'une part, par le prix très élevé des prix de gros du gaz, dont dépendent les prix de l'électricité, et également par l'anticipation d'une faible disponibilité du parc nucléaire français. Et puis, pour rappel, ce bouclier tarifaire à plus 15%, eh bien, il est déjà effectif pour ceux qui se chauffent au gaz depuis le 1er janvier.
Aurélien Fleurot, merci beaucoup Aurélien. On va vous retrouver à 13h, hein, Aurélien, pour La France Bouge.
Effectivement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il y a tout de même des nouveautés un peu plus réjouissantes en ce 1er février. Le taux du livret A, par exemple, qui passe de 2 à 3%. De quoi conforter le livret A dans sa position de placement préféré des Français. Barthélémy Philippe avec nous. Bonjour Barthélémy.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est déjà la troisième fois que le taux du livret A est relevé en l'espace d'un an. Hein.
Ouais, imaginez Romain, depuis le 1er février 2022, le taux du livret A est passé de 0,5 à 3 %, une rémunération multipliée par 6 qui a poussé les Français à garnir leur compte. L'an dernier, les 55 millions de propriétaires d'un livret A ont épargné 27 milliards d'euros, une collecte record depuis 10 ans. Et pourtant, le livret A n'est pas si performant selon Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.
Cette hausse reflète en fait la hausse de l'inflation. Même si ce taux augmente significativement, l'inflation a encore plus augmenté. Et aujourd'hui, on a une inflation à 6%. Après, il est vrai que si les ménages ont une aversion au risque, ils vont plutôt placer leur argent sur ce type de support qui garantit en fait un revenu, même qui est modeste, mais qui garantit leur capital. Donc cette épargne qui était déjà populaire l'est encore plus aujourd'hui.
Et pour rappel, le plafond du livret A s'élève à 22 950 euros pour une épargne moyenne de 5 800 euros. Avec le nouveau taux, un livret A garni à hauteur de 10 000 euros rapporte 300 euros d'intérêt en fin d'année.
Merci beaucoup Barthélémy Philippe. Voilà, maximum 22 950 euros et 5 800 euros placés en moyenne, hein, c'est ce que vous nous disiez.
C'est tout à fait ça.
Barthélémy Philippe, merci Barthélémy. Super U répond positivement à l'appel du gouvernement et va lancer un panier anti-inflation. À partir d'aujourd'hui, 150 produits vendus à prix coûtant, parmi eux du lait, de la farine, des yaourts, de l'huile ou encore des pâtes. C'est une opération qui est prévue dès aujourd'hui et pour une durée indéterminée. Le rapport de force semble s'être inversé entre gouvernement et syndicats. Les opposants à la réforme des retraites étaient très nombreux hier dans les rues. Au moins 1 270 000 manifestants. C'est le chiffre en tout cas donné par le ministère de l'Intérieur. De quoi faire douter peut-être l'exécutif. Jacques Serret est avec nous depuis l'Élysée pour Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Un conseil des ministres a eu lieu ce matin. Est-ce qu'il était question de lâcher du lest face à la grogne ?
Eh bien non, à ce stade, la ligne reste la même, celle de la fermeté, et notamment sur le point le plus important de la réforme, le décalage de l'âge légal de départ à 64 ans. Pour l'exécutif, c'est toujours non négociable. C'est une réforme indispensable, insiste-t-on encore ce matin dans la cour du palais. Quand on regarde au niveau national, la mobilisation est plutôt équilibrée par rapport à il y a 10 jours, se rassure un conseiller du président. Le fait est que l'engagement du président a été clair durant la campagne présidentielle, insiste un autre. Alors, y aura-t-il des aménagements à la marge ? Ici, au château, on renvoie vers le Parlement en rappelant qu'il y a un impératif, celui de l'équilibre financier. Les rares concessions pourraient porter notamment sur une clause de revoyure. En 2027, un amendement porté par le parti allié de la majorité, le Modem. Le gouvernement pourrait également faire un geste sur les trimestres de maternité pour les salariés du public. Aujourd'hui, dans le public, un enfant donne droit à 4 trimestres quand une salariée du privé en obtient 8. Ce qui ne devrait évidemment pas calmer la grogne, puisque les syndicats réclament le retrait pur et simple du texte. Bref, le bras de fer est loin d'être terminé.
Jacques Serret depuis l'Élysée pour Europe 1. Autre texte dont il était question lors du Conseil des ministres, le projet de loi immigration. Il prévoit des sanctions plus dures envers les délinquants étrangers avec un objectif, 100% d'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On en parle souvent. Mais parallèlement, des mesures pour faciliter la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension sont prévues. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour à tous.
Là aussi, le gouvernement n'est pas assuré d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, le gouvernement tend la main aux députés de droite, aux députés, les Républicains, pour essayer de faire passer ce texte, pour sortir de l'impasse.
Hein. Exactement. Et à ce stade, c'est loin d'être gagné. Je voterai contre ce texte, a déjà fait savoir le patron des LR, Éric Ciotti. Sur ce projet de loi, on voit clairement qu'Emmanuel Macron veut continuer à jouer la carte du « en même temps ». Or, en pratique, pour le moment, cela ne fonctionne pas. Le durcissement des règles d'expulsion des étrangers en situation irrégulière effraie la gauche, tout en étant jugé insuffisant par la droite. Quant à la mise en remplace d'un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papiers censés rassurer la NUP. Les Républicains y voient le spectre d'une régularisation massive. L'équilibre semble donc impossible à trouver. L'exécutif s'oriente tout droit vers un échec, à moins qu'un nouveau 49-3 ne soit actionné. Pour éviter d'en arriver là, selon nos informations, Gérald Darmanin est prêt à accéder à une grande partie des demandes des Républicains. Mais cela risque de contrarier l'aile gauche de la Macronie. Pour elle, le sujet de l'immigration est extrêmement sensible. Le président de la commission des lois de l'Assemblée, Sacha Houlier, se montre par exemple très attaché au volet régularisation et au titre de séjour métier en tension.
Arthur Delaborde, merci beaucoup. Arthur, service politique d'Europe 1, bien sûr. Tiens, le pape François, acclamé pour son deuxième jour en Afrique, le souverain pontife a célébré une messe géante devant plus d'un million de fidèles à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un million de fidèles. Il s'envolera vendredi pour le Soudan du Sud. C'est définitivement l'un des sujets de société les plus débattus en ce moment, le rapport des Français au travail. On parlait de la réforme des retraites il y a quelques minutes. Alors on s'intéresse maintenant à une expérimentation, écoutez bien, menée avec les agents de l'URSSAF de Picardie. Pendant un an, ils vont pouvoir tester la semaine de 4 jours, tout en effectuant le même nombre d'heures, Margot Faudéré. Bonjour Margot.
Bonjour, et c'est exactement ça, 36 heures sur 4 jours. C'est le test que propose le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, à ses agents, sur la base du volontariat, bien évidemment, aucune obligation, et le tout en conservant le même salaire. Mais pour ce militant de la CGT URSSAF Île-de-France, cette proposition ne résout pas du tout le problème des conditions de travail des agents.
La semaine de 4 jours, là, telle qu'elle apparaît, ça ne paraît pas forcément la priorité aujourd'hui. En tout cas, les collègues, c'est pas de ça dont ils parlent aujourd'hui. Ils parlent des salaires, ils parlent des retraites, ils parlent des dégradations des conditions de travail. Quand vous avez des départs qui ne sont pas remplacés, bah, forcément, la charge de travail, elle repose sur les collègues. Forcément, ça dégrade les conditions de vie.
Alors, de son côté, le gouvernement justifie cette initiative comme une piste vers le travail et mieux. Dans l'entourage du ministre, on reconnaît que le rejet très fort de la réforme des retraites montre que, quelque part, les Français ne sont pas heureux d'aller au travail et qu'il faut y remédier. En tout cas, Romain, cette idée de la semaine de 4 jours n'est pas nouvelle. Elle est déjà testée dans d'autres entreprises, notamment dans le privé.
Voilà, on travaille autant, mais sur 4 jours au lieu de 5.
Et après, les modalités changent. On peut toucher un peu moins ou alors on peut travailler plus pendant 4 jours.
Bon, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde.
En tout cas, selon les sondages, beaucoup de Français s'y intéressent.
Merci beaucoup Margot Faudéré. Il est midi 12, le film le plus attendu de ce début d'année sort aujourd'hui. Je parle bien sûr d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, signé Guillaume Canet. À l'affiche, une myriade de stars, comme on dit, Gilles Lellouche, qui joue Obélix, Marion Cotillard, en passant par le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Il s'agit du 8e plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Alors, qu'est-ce qu'il vaut exactement ce film événement? Guillaume Dominguez avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous avez posé la question à des spectateurs qui viennent tout juste de sortir d'une salle parisienne.
Oui, la première séance de 9h10 était très attendue ici au Ciné-Cité des Halles. En présence donc, vous l'avez dit, de Guillaume Canet et de Marion Cotillard, 96 personnes ont fait le déplacement pour cette première d'Astérix et Obélix. Et à la sortie, les avis sont mitigés. Sandra, par exemple, trouve que le scénario manque un petit peu de cohérence.
J'ai trouvé qu'il y avait certains acteurs qui se démarquaient forcément des autres, dont Jonathan Cohen et José Garcia. Après, j'ai trouvé que... J'ai l'impression que c'était plus comme une grande vidéo YouTube, en fait, avec notamment McFly et Carlito, et qu'on ressentait pas vraiment... on a l'impression que c'était juste pour faire rire ou juste pour faire des entrées, et il n'y avait pas vraiment de scénario, on voyait pas où ça allait.
C'est un peu entre les deux, il y a des bonnes choses, des choses à revoir. Je trouve que le Obélix joué par Gilles Lellouch est hyper convaincant. Guillaume Canet aussi en Astérix. Par contre, il y a des moments dans le film qui m'ont laissé un peu perplexe, un peu un manque de rythme, parfois des vannes qui marchent pas beaucoup. Et puis dans l'ensemble ça va, on passe un bon moment, mais avec quelques faiblesses par moment.
Voilà donc un casting qui a convaincu Gilles Lellouch, Guillaume Canet, Jonathan Cohen ou encore Vincent Cassel dans le rôle de César. Tous étaient à la hauteur, mais les critiques sont donc mitigées pour ce film. Des critiques qui sont quand même un peu plus positive que celle de la presse pour cette première du public venu ce matin.
Merci beaucoup Guillaume Dominguez. Voilà, Astérix joué par Guillaume Canet, Obélix joué par Gilles Lellouch. Guillaume Canet qui sera avec nous, vous allez l'entendre, Guillaume Canet à 12h45, à 1h moins le quart. Un mot de sport et de football. 5 matchs de Ligue 1 à suivre dans Europe 1 Sport ce soir. Montpellier-PSG, Lens-Nice ou encore Lyon-Brest, prise d'antenne sur Europe 1 dès 20h. Avant cela, dès 19h, 5 autres matchs dont Nantes-Marseille. La bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Quelle est la tendance à Paris?
C'est très très calme.
Ouais.
Toute petite baisse de 0,1%. Le CAC 40 est à 7076 points avant des rendez-vous importants. La décision monétaire de la Fed, la réserve fédérale américaine, ce sera à 20h ce soir. Et demain, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de livrer son verdict. Les banques centrales qui sont donc toujours mobilisées contre l'inflation et qui montent leurs taux. À Paris, côté valeurs, on suit Orpea. La Caisse des dépôts va donc prendre le contrôle du groupe de maisons de retraite. C'est confirmé. L'action chutait de plus de 30% à l'ouverture. Ça se calme un peu, elle cède à environ 7% en ce moment. Pas beaucoup de mouvement en Europe, la bourse de Francfort est stable, Londres gagne 0,1%, plus 0,2% pour Amsterdam et donc un très léger repli, moins 0,1% pour le CAC 40 à Paris.
Claire Lemaître, merci beaucoup Claire, la météo à présent avec Anissa Haddadi avec le retour des éclaircies.
Oui, ça fait du bien. Après cette matinée très grise qu'on vient de vivre, ça y est, les éclaircies arrivent par l'ouest. Elles seront vraiment de plus en plus nombreuses sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Bretagne, le long des côtes de la Manche. On a un petit peu de vent, hein, 50-60 km/h. C'est encore nuageux en Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charente, sur le nord de l'Auvergne. Des nuages un petit peu plus épais, mais qui laisseront là aussi passer les éclaircies. C'est toujours très ensoleillé entre les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées et la Corse. Attention, Mistral et Tramontane soufflent encore aujourd'hui. Et puis sur le quart nord-est, hein, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, c'est très gris avec un risque de petites averses. Les températures, elles sont plus douces aujourd'hui. On a 5 degrés à Belfort, 7 à Dijon, 9 degrés cet après-midi pour Brive et Clermont-Ferrand, 10 à Paris, Lille et Lyon, 12 à Bordeaux et 16 à Montpellier.
Merci beaucoup Anissa. Il est midi 16, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, on va rigoler. À midi 20, on va réécouter dans quelques instants, juste après la petite pause publicitaire, on va réécouter Gaspard Proust qui est tous les mardis, mercredis, jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Vous le savez, ce matin, il était face à Sandrine Rousseau qui a eu, on va le dire, hein, l'humour et l'amabilité de rester dans le studio pendant la chronique de Gaspard Proust. Vous allez voir ce que ça a donné, c'était extrêmement drôle. Et on va parler ensuite des retraits, du projet de loi immigration et puis on écoutera Guillaume Canet. Gros programme aujourd'hui dans Europe Midi, comme tous les jours. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Europe Midi, il est midi 20. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans Europe Midi, je voulais qu'on sourie un petit peu, qu'on rigole. On va réécouter un moment de radio. Gaspard Proust, vous le connaissez bien sûr, l'humoriste Gaspard Proust, tous les jours. Enfin, le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Gaspard Proust face à la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui était ce matin l'invitée de Sonia Mabrouk entre 8h15 et 8h30. Elle est restée pendant la chronique de Gaspard Proust. Écoutez ce que ça a donné Gaspard Proust dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1.
Effet studio. I had a dream that one day in the studio of Europe 1, we could see Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Patrick Cohen, Nadine Morano, Edwy Plenel and Marine Le Pen, also called Marine the Stylo Beak, make love together. But I also had a bigger dream. I had a dream that one day Sandrine Rousseau and Gaspard Proust will be in the studio Lagardère, and like said the poet Gérard Colomb, autrefois ils furent face à face, mais demain peut-être côte à côte.
Wow, quel beau.
Vous avez vu ça?
Martin Luther Proust.
Non, mais ce matin, c'est un événement planétaire. C'est l'artiste et sa muse dans le même studio. Là, on est en train de vivre un Manon des Sources qui finit bien.
C'est-à-dire?
Ah bah oui, moi je suis une sorte d'Ugolin qui court derrière Sandrine dans les couloirs. Sandrine, reviens, je t'aime. Tout ce que je dis sur toi, c'est pour faire le malin, je te promets. Tondelier, c'est pas la femme de ma vie. Tu vois, et à un moment, Sandrine, elle s'arrête. Bon, allons discuter dans le studio. Et je sens que ce démarrage vous surprend.
Effectivement, je ne vous cache pas.
Bah oui, comme tout le monde.
Même moi, il me surprend.
Vous êtes scolaire, vous voyez, parce que les gens, ils attendent le clash. Moi, les gens, ils se disent, ah ouais, de mon côté, il y a les gens derrière moi. Vas-y, là-haut, kill dans le studio, putain, sors le napalm et le tractopelle. Et du côté de Sandrine, tu vois, c'est... Surtout ne souris pas. Ne souris pas. Pas de connivence avec le réac misogyne. Pas. Ignore-le. Regarde au loin. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Ah, bon, je sais pas comment. Ah, c'est qui? Sur le papier, tu vois. Si je suis trop sympa, mon public va me dire, ah, il a pas de couilles, il nous a trahis. Et puis si elle sourit trop, elle est complaisante, Rousseau, ce matin. Mmh. Mais si on fait ça, et si on renonce à ce que l'on est pour une image que les gens se font de nous,
N'est-ce pas le début d'une forme d'automaltraitance? C'était la minute Mathieu Ricard du matin. Hein, c'est... Alors celui-là aussi, un prénom d'évangéliste associé à une marque d'alcool, tu m'étonnes que le bouddhisme a de la peine. Enfin bon. Mais non, mais je sais, ce matin, il y a une attente de fight, mais oui. Il faut dire la vérité aux auditeurs, Dimitri. Il faut qu'ils sachent. Je veux dire, moi, ça fait quoi, 5 mois que je fais l'imbécile ici. Bon, le matin, tu croises les politiques face à Sonia. Bon, ils font les kékés, ils font les duos, ouais, ils défendent leur bout de gras, mais en loge, globalement. Ils sont touchants, ils sont sympathiques, tu vois.
Mais oui.
Tu vois, et parfois, ça donne même des vrais moments humains. Tu vois, je me rappelle, j'oublierai jamais quand Manuel Bompard est sorti de la loge et qu'on lui a dit « Mais si, vous pouvez garder le muffin et la banane. » Tu vois, j'avais l'impression d'être l'évêque Myriel dans Les Misérables, mais prenez donc la cristalline aussi, mon brave, tu vois. Je le voyais longer dans le couloir, l'air pâteau, comme ça. T'as, j'avais envie de prendre une bonnette Europe 1, faites-vous des chaussettes avec pour le grand froid, c'est utile, tu vois. Mais, je veux dire, on est humain,
soutien putain. Manuel Bompard, soutien à Manuel Bompard, je ne voudrais surtout pas.
Bien sûr, mais parce qu'on est des êtres humains, tu vois. C'est, en plus, sur le papier, il n'y a pas de raison que ça connecte pas avec moi et Sandrine.
Effectivement, pourquoi pas.
Je suis cancer et les poissons, les signes d'eau, c'est facile, quoi. Moi, la poiscaille, c'est mon truc. Et puis, il faut être honnête. Vous avez de la chance, Sandrine, parce que ici, c'est quand même la matinale la plus féministe de France. Sonia Mabrouk, Anissa Haddadi, bon, Manuel Ducrot, là, qui va arriver. Et puis, bon, il y a Dimitri. Bon, alors, on a déjà vu des transitions de genre plus réussies, hein. Calmez-vous, Natacha. Alors, mais bon, c'est pas une femme. Bon, c'est un Y-crénien. Aujourd'hui, ça compte double. En tout cas, moi, je suis bouleversé qu'on reçoive Sandrine.
Oui, vous avez dit des choses pas très gentilles sur elle par le passé.
Ça, c'est impossible.
Hein.
Vous devez confondre avec Fabien Roussel ou Yannick Jadot. C'est pas mon truc.
N'en faites pas trop quand même, Gaspard.
Vous croyez pas à ma sincérité?
Non.
Hein, ça, c'est vraiment un truc d'Ukrainien. Vous avez la larme à l'œil parce qu'on vous livre pas des Rafales et des Charles Leclerc. Mais dès qu'il y a une tentative d'émerveillement devant une rencontre humaine, ça vous laisse de marbre. Ça. Mais ça, c'est les gens de l'Est. Hein. Ça chiale et ça dit je t'aime que quand c'est bourré. Hein. C'est comme ça. Et vous voyez, Sandrine, ce matin, je vais faire une tentative d'homme déconstruit et je vous offre, pour ainsi dire, ma faiblesse.
Je regarde.
Voilà. Alors, ça, c'est le moment. Quand je dis que vous êtes ma muse, vous savez, parfois, je me suis trouvé sans inspiration. Vraiment, j'avais pas envie de commenter l'actualité. Il n'y avait rien. Les grèves, bon, on a compris, quoi. Je veux dire, à moins de se remettre à faire des gosses comme des Versaillais à qui on fourre la brioche au Viagra tous les dimanches, bon, ça va pas marcher. Hein. Alors, tu vois, t'es pas inspiré, tu tournes en rond chez toi, et puis t'as une petite voix intérieure qui dit « Va voir le Twitter de Sandrine ». Putain, et là, je suis tombé in love en direct.
Je ne le fais que pour vous, Gaspard.
J'avais l'impression d'être un archéologue anglais qui vient de découvrir la tombe de Toutankhamon, tu vois. Le barbecue viriliste, le droit à la paresse, mon homme est un jeu de l'ego, enfin, c'est l'île au trésor. Quoi. Ouais, et en fait, quelque part, Sandrine Rousseau, c'est le droit à la paresse pour l'humoriste. Parce que ça, c'est injuste.
Exactement. Ah, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle.
Voilà, c'est que quand on n'a rien à dire, tu dis Sandrine Rousseau.
Exactement.
C'est Nadine Morano de gauche, en fait, tu vois, c'est pratique.
Ça vous enlève des trimestres de retraite, ça, je vous jure.
Voyez
tellement.
Et
tellement
le problème, ensuite, c'est que les gens, ils en font trop et ça dérape en préjugé. Par exemple,
un préjugé.
Oui, bah, Mbappé, ah bah, tout le monde. Dit n'importe quoi, elle a réfléchi, c'est une économiste, et l'inflation, les 200 millions d'Mbappé dans 50 ans, on va parler en anciens euros, avec ces 200 millions, le mec il va s'acheter avec un croissant, mais Sandrine elle a 3 coups d'avance, c'est ça que vous pigez pas, non mais, et puis il y a ce préjugé,
je vous remercie de le reconnaître,
ouais, voilà, vous n'avez pas sorti cet argument, merci, me remerciez pas d'être là, enfin bon, et il y a ce préjugé débile sur lequel Sandrine Rousseau n'aimerait pas les hommes, alors que c'est quand même elle qui a redonné envie aux gens de connaître les hommes.
Ah bon?
Pour que même Michel Sardou veuille savoir à quoi ressemble son mec. Dire, quand un hétéro macho de base des années 60 commence à se passionner pour un mec qui sort avec une féministe, non mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le titre du prochain album de Michel? Les sonats du Connemara? Le temps des backrooms?
Non.
Non, en général, le seul moment où un mec de droite s'intéresse au mari d'une nana de gauche, c'est parce que le mari de la nana est ministre des Finances et qu'il a un problème à régler avec le fisc, c'est tout.
Ouais, on sent limite une dent contre Michel Sardou.
À quoi hein. On peut plus critiquer Sardou maintenant.
Non, c'est
pas parce que Pascal Praud se réveille la nuit en hurlant Michel, je t'aime que qu'on est obligé d'être à plat ventre devant
c'est
le gars.
Faux,
ça
ouais.
Va quoi. En plus, il m'a volé une blague. Ce
ah
con.
Oui, laquelle blague?
Oh bah, il a, dans une interview, il a dit oui, qu'est-ce qu'un homme déconstruit? Bah, c'est un homme qui passe l'aspirateur. Et moi, j'ai eu la même idée, sauf que je suis allé plus loin.
C'est-à-dire?
C'est plus qu'un homme qui passe l'aspirateur. C'est Freddy qui passe l'aspirateur. I want to break free. Moi, j'ai tout de suite cette image. Et on le sait maintenant, Freddy Mercury n'est pas mort. Il habite avec Sandrine. Rendez-nous Queen.
Et là, je vous sens un poil jaloux. Merci, Gaspard.
Merci à vous.
Merci, Gaspard.
Merci, Sandrine Rousseau. C'était
Merci.
Un plaisir de vous avoir avec
nous. Et
vous
bonne
matin.
Journée.
Voilà, c'était ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. C'était pas évident hein, que ça matche entre Gaspard Proust et Sandrine Rousseau. Ça a fonctionné, c'était drôle, c'était de la bonne humeur ce matin sur Europe 1. C'est pour ça que je voulais qu'on réécoute ce moment. Midi 27, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler d'un tout autre sujet. Le projet de loi immigration présenté en Conseil des ministres. Patrick Stefanini, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration en France, avec nous. Et on sera avec vous, bien sûr. Vous appelez le 3921. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le projet de loi immigration. On en parle avec vous au 3921 et avec Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Mais tout d'abord, le point sur l'info, le flash avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Olivier Véran dénonce le projet irresponsable et chimérique de ceux qui veulent le retour de la retraite à 60 ans. Le recul de l'âge de départ à 64 ans n'est pas négociable, martèle le gouvernement. Le texte de la réforme est toujours examiné en commission des affaires sociales. Il reste plus de 5000 amendements à discuter avant ce soir. L'opposition est clairement dans une volonté d'obstruction parlementaire, déplore le porte-parole de l'exécutif. Le bras de fer va se poursuivre aussi dans la rue. Deux nouvelles journées de mobilisation sont prévues les 7 et 11 février. Le prix de l'électricité augmente plus 15% à compter d'aujourd'hui. Le tarif des péages autoroutiers et des courses de taxi et de VTC aussi. Seule hausse favorable au portefeuille des Français, celle du livret A, son taux est relevé de 2 à 3%. Les chiffres de la sécurité routière, ils sont plutôt stables. 3260 personnes sont mortes sur les routes l'année dernière. 244 cyclistes ont été tués. C'est 30% de plus qu'en 2019. L'épidémie de grippe repart à la hausse après 4 semaines consécutives de baisse, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre-Val-de-Loire et en PACA. La campagne de vaccination a été prolongée jusqu'au 28 février. Et puis le contrat du Marocain Hakim Ziyech, qui devait rejoindre le PSG, a été rejeté par la Ligue. Le recours du club est rejeté. Les documents nécessaires pour valider son arrivée sont arrivés trop tard. Le PSG, qui se déplace à Montpellier ce soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, à suivre aussi dans le multiplex Europe 1 Sport dès 21h, Lyon-Brest ou Monaco-Auxerre.
Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure à 13h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour Patrick Stefanini.
Bonjour Romain Desarbres.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Vous êtes un expert sur ces dossiers. Le projet de loi immigration a donc été présenté ce matin en Conseil des ministres. Je voulais qu'on le décrypte avec vous. Si je résume, d'un côté, le texte et le gouvernement, par la même occasion, jouent les gros bras et on explique qu'on va expulser plus facilement. Et de l'autre, on va régulariser du monde avec les métiers en tension. C'est du en même temps dans le texte.
Oui, c'est du en même temps, sans doute pour des raisons politiques. Mmh. Alors, il y a en effet des dispositions qui ont pour but de faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ou des étrangers qui troublent l'ordre public. Et c'est vrai que les résultats de la France dans ce domaine sont particulièrement médiocres depuis plusieurs années. Alors bien sûr, la pandémie de Covid n'a rien arrangé, mais les résultats sont quand même très médiocres. Alors Gérald Darmanin propose de faire deux choses. D'abord, il y a toute une série d'étrangers qui sont protégés actuellement contre les mesures d'éloignement en fonction de considérations qui sont largement des considérations familiales. Est-ce qu'ils sont nés en France? Est-ce qu'ils ont de la famille en France? Etc. etc. Gérald Darmanin propose de supprimer toutes ces protections.
Oui.
C'est politiquement significatif puisqu'elles avaient été instituées à l'époque de Nicolas Sarkozy en 2004-2005. Donc elles vont être supprimées, ce qui facilitera en effet aussi bien les OQTF, les fameux OQTF, que les mesures d'expulsion pour les étrangers qui troublent très gravement l'ordre public. Et puis parallèlement à cela, Gérald Darmanin propose de simplifier le contentieux de l'éloignement des étrangers, qui il est vrai en France est très complexe, qui fait intervenir notamment deux ordres de juridiction, c'est-à-dire deux types de juges. Alors le Sénat et le Conseil d'État avaient mis sur la table des propositions dont Gérald Darmanin s'est en grande partie inspiré. Mmh. Ces mesures me paraissent aller dans la bonne direction. Je sais bien qu'elles suscitent un certain scepticisme, mais je crois que ce scepticisme n'est pas justifié et que le ministère de l'Intérieur a vraiment besoin de ces mesures pour être plus performant. À côté de ça, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail proposent de régulariser un certain nombre d'étrangers qui exercent des métiers dans des secteurs en tension, avec la création d'un titre de séjour particulier, et ça c'est une vraie mesure de régularisation, puisqu'elle ne pourra bénéficier qu'à des étrangers présents en France depuis 3 ans et qui ont travaillé au moins 8 mois au cours des 2 dernières années dans ces métiers en tension. C'est la mesure qui suscite le plus de réticence à droite,
oui,
pour des raisons évidentes, c'est une régularisation. Et bien sûr, le risque, c'est que les employeurs qui ont employé dans ces conditions ces travailleurs, après qu'ils aient obtenu la régularisation, ne décident de faire venir de nouveaux clandestins. C'est ça le risque. Donc il y a en effet un risque d'appel d'air.
Mmh. On est avec, restez bien sûr avec nous, hein, Patrick Stefanini, on est avec Yves qui nous appelle de Troyes. Bonjour Yves.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi immigration ?
Mais écoutez, je viens d'entendre M. Stefanini, qui est oui, un éminent spécialiste oui, des problèmes,
oui,
et qui, lui, nous parle énormément de mesures techniques. Ça peut se concevoir, et c'est le rôle du politique. Mais par contre, j'ai l'impression que nos politiques passent complètement à côté du problème, parce qu'il y a une non prise en compte du phénomène. Et je crois que ce phénomène, c'est à la fois, il y a 3 éléments. Un phénomène économique, avec le problème du chômage en France, le politique qui fait de ce problème du faux humanisme, à mon sens, et le problème religieux. Et tout cela me semble englobé dans le phénomène démographique. Parce qu'il suffit simplement de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les pays scandinaves, qui ont largement favorisé l'immigration, la Norvège, la Suède, la Hollande et quelques autres pays voisins,
ouais,
et qui aujourd'hui, où on assiste actuellement à un phénomène de rejet, mais très fort dans ces pays-là. Et est-ce qu'il ne s'agit pas là, en fait, quelque part, je me trompe peut-être, même si c'est peut-être excessif dans le propos, une revanche des pays colonisés ? Parce qu'on a dit longtemps que la France, quelque part, était un pays d'immigration, ce qui est vrai. Mais on oublie simplement de préciser que la majorité des anciens immigrés, après les 2 dernières guerres, polonais, italiens, portugais, espagnols notamment, étaient tous généralement de confession chrétienne et ne posaient donc pas de problème d'intégration. Or aujourd'hui, le phénomène véritable, c'est un problème d'intégration. Et il est évident que tout le monde peut le constater, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, que les nouveaux migrants, dans leur immense majorité, considèrent que le religieux, de leur point de vue, prime sur le politique.
Patrick Stefanini, Patrick Stefanini, c'est très intéressant, hein, ce que nous dit Yves. C'est vrai que, bon, en parlant d'immigration, on peut avoir une approche très technique, mais après, il y a d'autres approches. Et là, il en a une autre.
Votre auditeur a raison, au moins sur 2 dimensions.
Oui.
D'abord, la dimension religieuse. L'immigration a changé de nature.
Oui.
Elle a été longtemps une immigration européenne, les Italiens, les Polonais, enfin, etc. Elle est aujourd'hui devenue une immigration en majorité en provenance de pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Et l'essentiel de ces migrants qui viennent de pays n'appartenant pas à l'Union européenne sont effectivement de confession musulmane. Et ça pose la question de leur intégration en France. Et nos capacités d'intégration sont limitées, et il y a là un vrai problème politique. Et puis votre auditeur a esquissé, mais moi j'irai plus loin que lui, un autre problème, qui est le problème démographique. La France a eu longtemps une démographie dynamique, elle reste bien placée en Europe de ce point de vue-là, mais elle n'assure plus aujourd'hui le renouvellement des générations, ce qui veut dire qu'à terme, nous sommes menacés de connaître, comme l'Allemagne ou comme l'Italie, une diminution de notre population active, une diminution de la population qui travaille, qui est en âge de travailler. Ça, ce serait catastrophique pour notre économie. Et le risque, si nous ne réussissons pas à redresser notre démographie, le risque, c'est qu'à ce moment-là, le recours à l'immigration ne devienne incontournable, indispensable pour maintenir notre croissance et notre population active, ce serait, de mon point de vue, catastrophique.
Merci beaucoup Patrick Stefanini, merci à Yves. On va continuer bien sûr à beaucoup parler de ce sujet. Il vient d'être présenté ce matin en Conseil des ministres. Ce projet de loi immigration, on va en parler souvent hein, dans Europe Midi parce qu'il y a beaucoup d'appels au 39-21. On change de sujet.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Plus d'1 300 000 manifestants dans les rues hier contre la réforme des retraites. Et maintenant, bonjour Céline Verzelletti.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Deux nouvelles journées de manifestation sont prévues les 7 et 11 février prochains. Mais pourquoi faire ? Le gouvernement le dit sur tous les tons, sur tous les plateaux de télé, dans tous les studios de radio. Le gouvernement ne bougera pas sur les 64 ans.
Oui, ben, il peut le dire sur tous les temps. Hein. On a déjà entendu des gouvernements comme ça dire qu'ils ne bougeraient pas, qu'ils ne retireraient pas leurs projets, qu'ils n'entendaient absolument pas les fortes mobilisations, à part qu'en vrai, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et que à chaque fois, et on peut regarder l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des millions de personnes dans la rue ou des millions de personnes en grève, eh bien oui, le gouvernement a été obligé de reculer. Et oui, on a pu obtenir aussi des conquêtes sociales de cette manière-là. D'ailleurs, toutes les conquêtes sociales très importantes, eh bien, elles ont été obtenues par la mobilisation. Donc là, on ne peut pas dire que ça soit une mobilisation qui ne soit pas massive. Elle est massive, elle est de plus en plus importante. D'ailleurs, on le voit, vous l'avez dit, hier, c'était une mobilisation beaucoup plus importante que le 19. Donc nous, on a d'autres chiffres, mais on a 2,8 millions de personnes dans la rue.
Oui, ça, c'est le chiffre de la CGT,
territoire.
Bon.
Hein. Oui, mais alors, quoi qu'il en soit, alors, à Paris, on peut, peut-être, on peut peut-être douter des chiffres des uns et des autres, mais vous savez, dans les villes un peu plus petites et un peu plus moyennes, quoi qu'il en soit, c'est même les sous-préfectures qui font remonter les chiffres. Voilà, quand vous avez.
Non, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y avait du monde, tout le monde le reconnaît.
Bon. Moi, je pense que vraiment, le gouvernement. Aurait vraiment tout intérêt justement à prendre en compte ce qui se passe, à prendre en compte le mécontentement, à prendre en compte le fait que oui, la majorité de la population ne souhaite pas cette réforme et cette partie de la population, cette grande partie de la population a bien raison d'ailleurs parce que moi je le redis, cette réforme n'était pas justifiée, le système de retraite n'est pas en péril, même si bien évidemment il faut débattre et discuter d'un meilleur financement pour d'ailleurs en premier lieu augmenter les pensions qui sont aujourd'hui insuffisamment élevé et puis aussi pour permettre aux uns aux autres de pouvoir avoir un vrai temps de vie après une longue vie de travail aussi et en bonne santé parce que ça c'est un vrai projet
de société. Après Céline Verzelletti on peut profiter de la vie à 40 ans, à 50 ans même quand on travaille, enfin il faut arrêter aussi il n'y a pas la vie avant le travail et la vie après le travail
pas. Non, mais d'accord.
Non.
Vous ne profitez quand même pas de la même manière quand vous êtes à la retraite qu'au travail. Et puis ça dépend de quel travail vous exercez, parce que je peux vous assurer que certains métiers, eh bien,
il y a des gens qui sont très tristes à la retraite. Hein, ça existe aussi. Hein.
Oui. Non, mais d'accord, ok. Mais enfin, demandez pourquoi. Demandez aux gens pourquoi ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Parce que soit ils n'y arrivent même pas à la retraite, parce que soit ils sont avant en invalidité et en maladie. Et là, je vous parle de personnes de plus en plus nombreuses qui exercent des métiers pénibles et qui finalement ont une espérance de vie moindre que les autres aussi. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte la pénibilité.
Ça, c'est le vrai sujet dont on entend beaucoup parler, effectivement, c'est la pénibilité. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a besoin de 44 ans de cotisation quand on a commencé tôt et qu'on fait un métier souvent pénible quand on a commencé assez tôt. Céline Verzelletti, j'ai encore une dernière question à vous poser, une réponse rapide, s'il vous plaît. Vous allez intensifier les blocages dans les semaines qui viennent ?
Mais écoutez, oui, bien sûr, les grèves vont se multiplier dans les différents secteurs professionnels, que ce soit dans le privé et le public. Et l'objectif, c'est de gagner le retrait de cette réforme. Donc oui, il va falloir multiplier et les manifestations et les grèves dans les différents secteurs professionnels.
Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Dans un instant, Guillaume Canet pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h47, merci d'être avec nous dans Europe Midi. C'est la sortie ciné du jour, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de et avec Guillaume Canet. Guillaume Canet que Dimitri Pavlenko a rencontré pour Europe 1.
Bonjour Guillaume Canet.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci.
Vous êtes à l'affiche et réalisateur d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est votre 8e long métrage. On va parler de votre prestation en Astérix, mais d'abord parlons de vous en tant que réalisateur. C'était un rêve de gosse pour vous de faire un Astérix sur grand écran ?
Oui, c'était pas un rêve forcément au départ, mais ça l'est devenu quand on m'a proposé de lire ces 20 pages qu'avaient écrit Julien Hervé et Philippe Méchelin. Et du coup, ça l'est devenu en lisant ces 20 pages. D'un coup, je me suis projeté dans la possibilité de faire un grand film populaire avec des effets spéciaux, avec des grandes scènes de bataille, avec tout ça, parce que je voyais que ce que ça racontait, en fait, permettait ça, en fait.
Vous avez vu le péplum, vous, c'est ça, en fait.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait matière, en tout cas, à faire un grand film d'aventure, comme on n'en voit plus beaucoup en France, et qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu des paillettes dans les yeux.
Et alors, à quel moment le réalisateur que vous êtes se dit « Et si c'était moi, Astérix ?» Est-ce que ça s'impose assez vite à
Non, ça
ne
s'est pas fait comme ça. En fait, moi, je voulais jouer César. Ça me faisait vraiment marrer de jouer César. Et puis finalement, j'ai changé d'avis assez rapidement parce que je me suis rendu compte à quel point vraiment Vincent Cassel, avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps, serait plus que parfait.
Ça match.
Quand on le voit, on a l'impression que Albert Uderzo a dessiné le personnage sur le profil de Vincent et sur le visage de Vincent. Donc il y avait un truc voilà, que je trouvais assez évident. Et puis après, c'est lors d'une réunion en fait, chez Pathé où tout le monde m'a un peu dirigé vers ce choix en me disant que j'avais le caractère, le côté fonceur, un peu téméraire et même des fois un peu trop à suivre les règles de d'Astérix, un peu rigoureux d'Astérix et voilà, et c'est comme ça que les choses se sont décidées, même si ça m'inquiétait un peu parce que jouer et réaliser avec un rôle aussi important, ça me plaisait pas forcément au départ, c'est pour ça que j'avais préféré l'idée au départ de
Vous gardez de jouer le casque à ailettes quand vous passez derrière la caméra pour
Ah oui, je l'ai gardé longtemps, ouais, le casque et la perruque, et j'étais pas toujours très crédible dans le fait de diriger les acteurs toujours en costume d'Astérix, mais oui, ça fait partie du devoir de quand on fait les deux. Ouais.
Alors, l'Empire du Milieu, ça n'est pas l'adaptation d'un album existant. D'ailleurs, peut-être, c'est une question que je vous poserai juste après. Pourquoi ne pas avoir choisi, finalement, d'adapter un album que tout le monde a lu ? Mais comment ça s'est passé, l'écriture du scénario ? Est-ce que vous avez senti les fantômes de Goscinny-Uderzo planer au-dessus de vous ? Est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'ils en auraient pensé, eux ?
Alors d'abord, j'ai eu, moi, l'immense chance de rencontrer Albert Uderzo avant qu'il parte. Et c'est vrai que j'étais très ému et très touché de lui lire ses premières pages du scénario et de voir son sourire d'enfant et ses yeux qui brillaient. Et
vous avez lu les pages du scénar.
Ouais. J'ai eu la chance de vivre cette scène qui était formidable. En fait, on m'a proposé d'abord 20 pages. Donc, c'est pas moi qui ai choisi d'écrire l'Empire du Milieu. En fait, ça a été écrit au départ par Julien Hervé et Philippe Méchelin. Ils ont écrit d'abord une première version tous les deux. Et après, j'ai collaboré avec eux et après je me suis accaparé le scénario et j'ai écrit 6 ou 7 versions tout seul en adaptant ce scénario-là. Et c'est une des deux, troisième versions que j'ai eu la chance de lire à Albert Uderzo. Alors après, effectivement, il y a une promesse quelque part que j'ai pu faire à Albert Uderzo à l'époque et que je me suis faite pour moi par rapport à René Goscinny, c'est d'essayer d'être fidèle à la BD, fidèle aux albums, aux personnages,
à
ce que
aussi,
ça racontait, hein. À l'humour. Et c'est très délicat en fait. Et heureusement, j'avais le soutien de Hachette et des ayants droit et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, et qui ont été extrêmement précis et précieux, comme je le disais, sur les réactions et sur les notes qui pouvaient sortir des versions pour que justement on essaye d'avoir le talent, d'essayer en tout cas d'être peut-être pas au niveau, mais en tout cas de suivre la volonté de René Goscinny à chaque fois de coller à une certaine réalité, à une certaine actualité,
oui.
Mais de rester proche et propre à l'ADN en fait de ces personnages gaulois.
Et comme dans les Astérix qu'on a tous lus, voilà. Il y en a pour tous les âges.
Exactement. Donc il y avait une charte un petit peu quand même à suivre et moi j'ai tout fait pour essayer de respecter cette charte. Ouais. Ouais.
Alors votre personnage Astérix qu'on connaît tous, là il est en interrogation vegan. Il se demande si le régime carné gaulois n'est pas excessif.
Ouais, il remet un peu tout en question parce qu'il se rend compte que...
Et la potion magique, il se dit, mais on n'a pas de recul, les druides n'ont pas de recul.
Ouais, on n'a pas le recul, on ne sait pas si c'est bon pour l'organisme. Mais parce qu'en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de montrer aussi ce personnage qui est très fort, qui est tombé dans la potion magique, qui n'a pas besoin de boire de la potion. Et puis ce personnage, je trouvais ça intéressant de le qualifier comme ils allaient tous les deux connaître l'amour dans cette aventure. Bah, quand on connaît l'amour, tout d'un coup, on se regarde soi-même aussi. On fait attention à qui on est, à ce qu'on est fort, à ce qu'on n'est pas fort. Et que, quand même, Astérix, il vit quand même avec cette frustration d'être obligé, d'être dépendant d'une gourde. C'est ce qu'il dit à un moment. Il dit, je suis dépendant d'une gourde. Et il sait que pour être fort, il faut qu'il boive de la potion. Donc, il boit en cachette. Il ne veut pas montrer à la princesse qu'en fait, il veut faire croire qu'il est fort, aussi fort qu'Obélix, sans boire de potion. Et c'est ça qui me touchait. Je trouvais ça intéressant de voir que, du coup, il s'interroge sur sa santé. Il s'interroge savoir est-ce qu'on ne mange pas trop de sangliers quand même. C'est matin, midi et soir. Plus la cervoise, puis tout ça. Donc en fait, je trouve que ça collait aussi à une certaine réalité, une certaine actualité aujourd'hui sur le bien-être et sur... voilà.
Et alors, cet empire du milieu, cette Chine, elle a quand même des sacrées couleurs d'Auvergne. Je crois que vous auriez aimé aller tourner en Chine, mais ça n'a pas été possible.
Oui, on sortait à peine de la pandémie, c'était très compliqué de voyager, de partir en Chine. On sait qu'il y a suffisamment d'exemples dans le cinéma mondial... et de tous les temps, comme Apocalypse Now, qui n'a pas du tout été tourné là où ça se passe. Il y a la magie du cinéma. On arrive effectivement avec certains décors et certains effets spéciaux. On réussit à faire croire qu'on est dans certains endroits, en fait. Et puis là, on a été extrêmement précis sur les recherches et de reconstituer des paysages chinois pour qu'on y croit. Et puis après, on a reconstitué des vrais décors, comme les rues de Shanghai, avec Mathieu Junot et Aline Bonetto, qui ont fait un travail de la déco et qui a fait un travail extraordinaire. Et ça, c'était très excitant de reconstituer la Chine, en fait.
Dernière question, s'il avait fallu adapter un album existant d'Astérix et Obélix, ça aurait été lequel, Guillaume Canet ?
C'est très très compliqué de choisir. Moi, il y a un album qui est devenu après un album, mais qui était d'abord un dessin animé, qui était Les 12 travaux, que je trouvais très excitant à faire parce que ça a été fait en dessin animé, mais que je voyais bien en live parce qu'il y a un certain décalage et il y a une certaine modernité et absurdité, en fait, que je trouve très truculente.
Ouais, qui n'a pas visité la maison qui rend fou, par exemple.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Guillaume
Canet.
Merci
à vous. Merci
Astérix
beaucoup.
Et Obélix, l'Empire du Milieu, ça sort en salle aujourd'hui même. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Voilà, Guillaume Canet qui répondait aux questions de Dimitri Pavlenko, que vous retrouvez demain dans la matinale, bien sûr. Il est 12h54, merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. On se retrouve demain dès midi pour un nouveau numéro d'Europe Midi. Évidemment, dans un instant, c'est La France Bouge avec Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien.
Bonjour Romain, alors aujourd'hui on va parler du rôle de l'hydrogène dans la décarbonation de l'économie française. On va parler mobilité, industrie, formation, parce qu'il faut embaucher évidemment dans le secteur de l'hydrogène. Et on en parle aujourd'hui parce qu'il y a un salon qui débute, Evolution, porte de Versailles à Paris. Rendez-vous majeur sur l'hydrogène.
Aurélien Fleureau qu'on retrouve dans un instant pour La France Bouge. Nous c'est demain, à demain, bon après-midi sur Europe 1.
Travailler dans la restauration, ça demande de l'énergie. Celle du service, mais aussi celle des fours, des frigos, du lave-vaisselle. Grâce à Bessley Watt, j'ai pu diminuer ma consommation d'énergie et mes dépenses.
TPE PME, réduisez votre consommation d'énergie avec Bessley Watt. Profitez d'un accompagnement personnalisé, d'un carnet de bord en ligne et de formation. Bessley Watt, un programme gratuit proposé par La Poste et ses partenaires, soutenu par les certificats d'économie d'énergie. Un dispositif du ministère de la Transition énergétique. Inscrivez-vous sur BessleyWatt.fr.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle de la crème riche premier cru, véritable avancée scientifique anti-âge.
La crème riche premier cru associe une technologie co-brevetée avec Harvard à des céramides biotech pour réparer la barrière de la peau et corriger les 8 signes de l'âge. Rides, ridules, taches, éclats, élasticité, fermeté, nutrition et volume.
La crème riche premier cru de Caudalie, disponible en packaging rechargeable, en pharmacie, parapharmacie et sur caudalie.com.
Dans La France Bouge, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle de l'hydrogène dans la décarbonation de l'économie française. Mobilité, industrie, les usages de l'hydrogène sont nombreux et on va voir que toute une filière est en train de se mettre en place avec des investissements massifs. On va en parler avec Valérie Bouillon-Delporte, elle est directrice de l'écosystème hydrogène au sein du groupe Michelin et puis première vice-présidente de l'association France Hydrogène qui regroupe tous les acteurs de ce secteur en pleine expansion et puis aussi comme d'habitude des startups qui n'en finissent pas de grandir. À tout de suite sur Europe 1.